Parti. Bonjour à tous, vous écoutez toujours Loire FM, il est 8h30 et il est l'heure de l'émission scientifique du jour, Science et Avenir Technologique.
Science et Avenir Technologique, l'émission qui te présente les innovations d'aujourd'hui et de demain.
Le thème du jour est tout à fait dans le thème de l'émission, puisque nous allons parler d'une technologie actuelle, mais qui va devenir de plus en plus importante dans les années à venir, l'intelligence artificielle, aussi appelée IA. Pour en parler ici aujourd'hui avec moi, je reçois 4 personnes qui s'intéressent ou sont concernées plus ou moins par l'intelligence artificielle. Tout d'abord, nous avons Paul Lavie. Vous êtes photographe dans les Yvelines. À 4 ans, vous avez eu un grave accident domestique. En effet, vous avez eu le bras arraché par la tondeuse familiale. Vous avez appris toute votre vie à vivre sans votre bras gauche. En 2014, vous avez acheté un bras bionique qui fonctionne en mesurant l'activité musculaire du haut de votre bras. Cela fait de vous l'un des premiers êtres humains à vivre quotidiennement avec la robotique. Vous êtes l'un des premiers transhumains. Vous nous parlerez donc de votre expérience de la robotique et de l'intelligence artificielle. Stéphane Fauteuil, vous êtes chercheur en informatique. Vous avez signé en 2015 une pétition à l'initiative de Stephen Hawking contre les robots tueurs, ainsi que d'autres grands chefs d'entreprise tels que Elon Musk de Tesla et SpaceX ou Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Vous réclamez l'interdiction des armes autonomes sans intervention humaine, mais aussi en alertant sur de potentielles dérives liées à l'IA. Jean Badouin, vous êtes ingénieur chez Boston Dynamics. Vous êtes l'un des concepteurs du robot Atlas que l'on a pu voir faire un salto il y a encore quelques semaines. Vous avez aussi, pendant quelques années, conçu des lignes automobiles autonomes. Votre connaissance de la robotique et de l'IA sont donc très intéressantes dans cette émission. Et enfin, José Chacapi, vous êtes membre de l'Association française contre l'intelligence artificielle, aussi AFCIA. On peut lire dans le manifeste de l'association, on estime que le niveau de l'intelligence humaine sera atteint par l'intelligence artificielle entre 2020 et 2025, ce qui implique que les systèmes seront doués d'une conscience de soi. Très rapidement, ce niveau sera lui-même dépassé et l'informatique atteindra ce que certains appellent déjà la super-intelligence. Votre vision sera bien évidemment très intéressante. Alors, bien évidemment, vous êtes 4 invités, vous pouvez rebondir sur ce que chacun dit sans couper la parole et dans le respect de chacun. Alors, pour commencer, j'aimerais en quelques mots que chacun d'entre vous décrive aux auditeurs ce qu'est pour lui l'intelligence artificielle. Alors, Paul Lavie, allez-y.
Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est plutôt sous forme de robots capables de traduire les gestes humains ou la pensée humaine. Et apprendre de ses erreurs. Et... Voilà.
Stéphane Fauteuil.
Moi, je vois ça comme un potentiel danger pour l'humanité. Que ce soit l'humanité qui se reposera simplement sur les IA ou aussi simplement des constructions d'armes massivement destructrices. C'est un véritable danger pour l'humanité.
Alors pour ma part, l'intelligence artificielle, je trouve ça comme une évolution du monde et ça pourra permettre de rendre les entreprises beaucoup plus rentables qu'auparavant.
Selon moi, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet juste de supplier l'homme dans des tâches, voire de dépasser l'homme et de prendre l'emprise de notre vie.
Très bien. Alors aujourd'hui, on a vu que la robotisation a envahi l'industrie. Jean Badouin, vous avez conçu des lignes de production robotisées pendant plusieurs années. Quels sont, selon vous, les avantages apportés par la robotisation et l'intelligence artificielle à l'industrie ?
Alors, les plus gros avantages, c'est que pour les salariés, ça évite qu'ils travaillent à la chaîne et ça réduit la pénibilité d'une très grande manière au travail, donc la fatigue, tout ce qui peut être vis-à-vis des troubles musculo-squelettiques, donc aussi appelés TMS. Donc, ces points de vue... De la pénibilité, c'est un très très gros avantage. Et il n'y a plus que de la maintenance à faire sur les différentes lignes de production. Donc ça nécessite des ouvriers un peu plus qualifiés, mais moins de fatigue au travail.
Mais du coup, ça risque pas aussi d'augmenter d'autres problèmes de santé liés à un manque d'activité physique chez les êtres humains, notamment développer pas mal l'obésité dans le monde, qui est déjà un fardeau assez important dans les nations.
Après, les ouvriers peuvent se reconvertir sous une autre forme de métier, faire une formation et aller dans un autre secteur d'activité pour continuer à exercer un métier pour avoir une activité physique.
Mais tout le monde ne cherche pas forcément à avoir non plus un certain niveau d'études ou à refaire des formations supplémentaires à l'heure actuelle.
Paul Lévy.
Et vos ouvriers, vous les avez gardés dans l'entreprise, vous les avez formés, vous avez été obligé d'en licencier?
Alors il y a eu quelques licenciements. Après, du coup, même nous-mêmes au sein de notre entreprise, nous avons procédé à une formation qui a permis de transformer des ouvriers en agents de maintenance pour toujours pour éviter le licenciement massif des ouvriers.
Ouais, donc ils ont été capables de se reconvertir quand même.
Oui,
enfin,
tout à fait.
Tous les ouvriers ont été reconvertis?
Non, quelques-uns ont été licenciés.
Ah oui.
Et à peu près quelle proportion de licenciement par rapport aux employés d'origine?
Environ 10-15% des ouvriers.
Très bien. José, peut-être une réaction?
Non, ben, j'ai les mêmes avis que Stéphane sur ce sujet. C'est créer forcément des licenciements, donc ça pose quelques soucis.
Après, on peut dire aussi que ça évite l'accident du travail qui peut être causé par...
Oui, mais ces personnes licenciées se retrouvent au chômage, du coup, et vous n'avez aucun plan pour les pour leur retrouver du travail ou...
Bah après, dans notre pays, des systèmes de reconversion existent, tels que Pôle emploi, avec leur formation... Nous sommes plutôt bien lotis de ce côté-là.
Ouais, et après, c'est peut-être parce que les ouvriers qui ont été licenciés, c'est ceux qui refusaient d'évoluer ou qui avaient peut-être pas envie de...
Oui, bah, nous avons pris les ouvriers les plus motivés qui voulaient participer à la formation pour devenir agent de maintenance.
Oui, mais dans un pays où il y a quand même 6 millions de chômeurs, est-ce que c'est une bonne idée de progresser comme ça au niveau de la robotisation et de licencier les personnes?
Et est-ce que c'est pas, ces métiers-là, ils n'ont pas été... Non, enfin, ces personnes licenciées n'ont pas été remplacées par des nouveaux employés plus qualifiés? Ça a peut-être permis d'embaucher de nouvelles personnes?
Bah, ça a permis d'embaucher, oui, plutôt des ingénieurs qui pouvaient nous aider au sein de l'entreprise pour pouvoir développer des robots, pour éviter de faire participer des sous-traitants pour développer les robots.
Très bien. Depuis quelques années maintenant, l'écologie est un thème de société mondiale centrale. Malgré qu'aucun d'entre vous ne soit spécialiste de l'environnement, j'aimerais connaître votre avis sur les effets de l'intelligence artificielle sur l'écologie.
Alors, sur l'écologie, l'intelligence artificielle a des gros problèmes, parce que déjà, ça crée des besoins énergétiques pour alimenter tout ce qui est tous les centres de data et de données. Donc, ça nous force à une consommation d'énergie. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore apte à avoir des énergies renouvelables suffisantes pour produire assez d'énergie pour l'intelligence artificielle.
Puis en plus, ça crée une réelle dépendance au réseau énergétique présent. Et il y a aussi tout un problème dû aux composantes nécessaires pour faire fonctionner les IA, qui vont à chaque fois demander des productions de composantes de plus en plus performantes, avec des produits qui sont pour la plupart non recyclables ou qui sont parfois aussi très très rares à trouver et qui nécessitent des méthodes draconiennes pour aller les obtenir en quantité suffisante.
Alors pour les systèmes recyclables, alors il y a des, comme on peut voir dans le cinéma avec les studios Pixar, ils ont créé un robot, le robot Wall-E, donc qui est fait que de pièces recyclables, donc ça peut être une évolution du monde au niveau de l'écologie par rapport à l'intelligence artificielle, et du coup ça permet de prendre les composants qui peuvent être non recyclables et de les réutiliser sous une autre forme.
Oui, mais il y a certains composants qui ne se retrouveront de toute façon pas dans les décharges qui sont nécessaires au développement de certains composants essentiels aux IA.
Bah, 100% du système ne pourra pas être recyclé, mais si on peut en recycler une partie, ce sera déjà une belle avancée.
Paul Lévy et José Chacapi, j'aimerais connaître votre avis aussi.
Après, pour ce qui est de la source d'énergie, bon, ça peut peut-être pousser aussi à développer encore plus les énergies renouvelables, et de toute façon, c'est ce qu'on fait. On cherche de plus en plus à utiliser les énergies renouvelables, donc ça... Donc finalement, bah, même si on a besoin de plus en plus d'énergie pour faire fonctionner les robots, à terme, on essaiera d'utiliser que de l'énergie renouvelable.
J'en doute, puisque on a déjà des centrales nucléaires qui ne sont pas au maximum de leur production, et il sera beaucoup plus aisé pour l'État que d'augmenter la production des centrales nucléaires déjà existantes plutôt que de construire énormément d'éoliennes, de barrages ou autres systèmes permettant
Et vous allez revenir sur la recyclabilité des matériaux. Donc dans un robot, il y a pas mal de matériaux qui sont non recyclables et qu'on ne pourra pas forcément remettre dans d'autres robots. Donc ça va créer d'autres décharges. Il y a déjà en Afrique, par exemple, pas mal de décharges d'ordinateurs ou de téléphones portables. Donc ça va créer encore plus de décharges et de...
Ça n'en créera pas plus si on recycle une partie des robots.
Mais là, déjà, aujourd'hui, une grande partie n'est pas recyclée et reste...
C'est pour ça que si on recycle une partie, ça évitera d'avoir un stock de déchets trop important. Il y en aura toujours, mais...
Il y en aura toujours.
Mais ces déchets sont en plus extrêmement polluants.
C'est ça.
Et c'est là le véritable problème.
Y compris dans les systèmes d'énergie non renouvelable. Par exemple, dans les éoliennes, il y a des métaux très rares qui seront épuisés un jour ou l'autre. Même dans les systèmes écologiques, comme on dit.
Ouais. Et après, peut-être que on sera capable de recycler aussi ces métaux rares.
Nous avons une question d'un auditeur sur Facebook. Christophe. L'intelligence artificielle peut-elle être dangereuse pour l'homme? Et j'ajouterais, qu'en est-il des informations récupérées par tous ces systèmes de données? Que deviennent-ils et...
Mais alors les informations dans les systèmes de données sont toutes stockées donc dans les centres. Donc on est tous suivis, toutes nos données sont gardées dans les intelligences artificielles. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux parce que toutes nos recherches sont centrées. Par exemple, si on recherche sur Internet quelque chose, tout le monde va avoir la même page qui s'affiche, donc tout le monde va avoir la même connaissance. Donc ça va nous produire un manque de connaissances, un manque de tout. Donc il y a un réel problème.
Puis c'est aussi très très dangereux sur tout ce qui est hacking, puisque ça permet d'avoir accès à énormément d'informations sur une personne, sur sa psychologie et toute sa vie au quotidien, simplement en observant les données dans les bases de données.
Par contre, les data centers sont extrêmement sécurisés, donc les hackings sont extrêmement rares.
Ce qui n'a pas empêché Google d'être, ou même la NASA d'être déjà hacké à plusieurs reprises par des gens dans leurs appartements.
Oui, mais c'est les rares, ça doit se compter.
D'autant plus que l'appât du gain pourrait pousser pas mal de personnes à apprendre à hacker ce genre de système. Et les sécurités ne se développeront pas forcément aussi rapidement que ce que l'on peut imaginer.
Jean Badouin, vous avez... élaboré et conçu le robot Atlas. Quel serait pour vous un avantage d'un robot domestique?
Cela permet donc de pouvoir libérer du temps pour, par exemple, les parents, que les enfants, si par exemple ils ont des devoirs à faire, peuvent être aidés par un robot au lieu de que ce soit les parents qui soient à aider et par exemple vont faire des recherches sur Internet, le robot aurait les réponses beaucoup plus rapidement, ce qui permettrait après de pouvoir libérer du temps pour des activités extrascolaires, pour pouvoir...
Vous n'avez pas peur que cela éloigne les humains entre eux?
Non, parce que ça permet de libérer du temps aussi pour les adultes, pour faire leur partie, par exemple, s'ils ont des papiers à faire ou autre, et suite à ça, après, en extrascolaire, ils peuvent tous se retrouver ensemble, et comme ça... ça permet de gagner du temps.
Il n'y aurait pas du coup un gros problème de responsabilité s'il y a un problème qui arrivait alors qu'il n'y a que le robot et les enfants par exemple qui seraient responsables? Eh bien il pourrait y avoir un accident avec la machine,
même juste un problème
de composantes,
un enfant
de
qui tombe, qui se blesse.
Mais le robot ne pourrait pas rester seul à la maison, enfin, il y aurait toujours un adulte, si c'est des personnes en bas âge, éviter le...
Ça ne vous gêne pas qu'un robot éduque vos enfants ou s'occupe d'eux
pour une partie de la journée?
Vous ne pensez pas que ça va leur donner l'impression que le robot est humain, enfin une mauvaise vision de la vie?
Et puis il y a un intérêt peut-être plus grand pour les robots que pour les autres êtres humains qui l'entourent.
Après, le robot est beaucoup plus rapide que certains humains pour des tâches extrêmement simples.
Donc, l'enfant pourrait préférer les robots à un humain. Donc s'isoler, rester dans un univers virtuel sans...
Enfin après là on parle du robot qui est pour le cadre des études, dès qu'il a quand il a fini de travailler, enfin, il n'a plus besoin du robot.
Ah, si j'ai bien compris, Jean Bazouin disait que le robot pouvait substituer pour quelques temps les parents. Si j'ai bien compris ce que Jean Bazouin
disait. Sur ce point-là, ou autrement par exemple au niveau des tâches ménagères, ça éviterait d'avoir des tâches ménagères à faire pour une personne au sein de la maison et libérer du temps toujours.
Et là, dans ce cas-là, si c'est les parents qui ont du temps de libérer par rapport aux tâches ménagères, peut-être que du coup ils peuvent s'occuper plus facilement de leurs enfants aussi.
Exactement.
Si on voit ça comme ça.
Mais le développement de l'IA ne s'arrêtera probablement pas là et ça touchera probablement, comme le disait Jean Bazouin, à l'éducation. Et c'est là où ça devient particulièrement dangereux pour le développement intellectuel de l'enfant.
Après, il faut peser le pour et le contre. Et il y a certainement des études en cours qui doivent être faites pour savoir si des troubles apparaissent au niveau de la formation.
Et il en existe malheureusement
c'est sûr.
Déjà pas mal.
Juste l'isolement qui peut être produit par ça.
Puis l'illusion de relations sociales avec d'autres êtres vivants alors que ce n'est pas réellement le cas. Et
après, il y aura toujours le lien social, par exemple, pour des enfants, l'école, il y aura toujours des classes avec d'autres personnes.
Mais qui pourraient disparaître avec des robots.
Après, c'est à nous aussi de mettre des lois en place et de se limiter par rapport à l'utilisation des robots aussi. Si on voit que ça a des troubles.
Est-ce qu'ils arriveraient vite ? C'est bon. Parce que là, ça va partir quelques années.
Le progrès n'attendra pas l'apparition des lois pour s'instaurer.
Oui, après, il faut pas limiter la recherche, tout ça, mais il suffit de mettre des lois en place, voilà.
Quel genre de loi ?
Pour restreindre l'utilisation des robots, leur utilisation.
Et les restreindre à quel milieu, à quelle, quelle fonctionnalité ?
C'est pas vraiment à la fonctionnalité, mais... Oui, si par exemple, pas remplacer les profs par des robots ou des choses comme ça dans les écoles, quoi, que l'école ne devienne pas automatisée non plus. Mm-hmm. Et
pourtant, c'est déjà ce qui existe dans certains pays développés. Hein. Au Japon, ça existe déjà.
Oui, on a vu au Japon un robot qui a intégré un collège.
Avec l'accompagnement d'un prof, peut-être.
Il est élève dans un collège.
Ah, élève.
Il y a déjà aussi des robots professeurs au Japon, dans des classes de plus bas niveau. Mm. C'est déjà le cas.
Paul Lavie, vous avez depuis 2014 un bras robotique. Oui. Que pensez-vous ? Est-ce que cela a vraiment changé votre vie ?
Déjà dans les tâches quotidiennes, forcément, ça aide beaucoup. Et c'est aussi un avantage pour socialement pour retrouver du travail, parce que le fait de ne pas avoir de bras, c'est vachement handicapant pour être embauché, pour la vie professionnelle, donc ça m'a aidé pour ça, pour ne pas rester au chômage.
Mmh. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec l'évolution de la technologie, un jour votre bras supplante votre volonté personnelle, par exemple ?
Comment ça pourrait...
Avec l'intelligence artificielle implantée dans votre bras ?
Oui.
Que ça fait des problèmes internes.
Non, parce que c'est quand même moi qui contrôle le bras. Enfin, ça reste comme, on pourrait comparer ça à un outil, quoi, un outil de travail. C'est pas non plus, ça remplace pas mon cerveau.
Oui, pour l'instant, mais
oui,
éventuellement.
N'ayez-vous pas peur, par contre, d'une éventuelle obsolescence de votre bras dans quelques années, et puis éventuellement aussi d'un phénomène qu'on a pu retrouver avec la chirurgie esthétique. Qui pourrait éventuellement se retrouver et faire un effet de mode d'être humain.
Alors ça, c'est sûr.
Qu'on s'ampute volontairement pour avoir des membres bioniques, par exemple.
Pardon ?
Bon. Pas forcément jusque-là.
Non, mais...
passer par le domaine médical directement, mais...
Oui, mais qu'on...
Certaines volontés d'un plan bionique.
Oui, voilà, afin de développer ses capacités physiques au maximum.
Ouais. Pour ce qui est de... L'obsolescence, comme tout, si on compare ça à une machine, ça peut forcément tomber en panne comme n'importe quoi, enfin, avec le temps. Mais bon, après, c'est comme quelqu'un qui n'a pas ce genre de choses, c'est pareil, il peut avoir des maladies, des accidents, et du coup, perdre son bras aussi.
Et vous n'avez pas peur que le. que l'humain se déshumanise en se robotisant de plus en plus, en commençant les bras, les jambes, puis éventuellement d'autres parties.
Ouais, enfin après, ça, dans ce cas-là, c'est... c'est pas un truc qui... le fait d'avoir un bras bionique, c'est pas une volonté de quelqu'un de, comme ça, de changer.
Oui, pour l'instant.
Si, il pourrait y avoir des gens qui voudraient ça pour augmenter leur capacité, leur force, mais bon, tant que ça reste dans le cadre d'un accident, c'est pas... ça touche pas tout le monde non plus.
Oui, pour l'instant, mais si on reprend par exemple l'exemple de Stéphane Fauteuil avec la chirurgie esthétique, elle a commencé après la Première Guerre mondiale avec les grands blessés de guerre, et aujourd'hui c'est un phénomène de mode, une femme peut aller se refaire faire une partie du visage, un homme pareil, et vous avez pas peur que d'ici 20, 50 ans, ça devienne quelque chose de courant?
C'est possible que, oui, ça peut prendre cette direction-là. Après, est-ce que c'est vraiment néfaste?
Est-ce que selon vous, votre bras, il fait partie de votre corps intégrante ou c'est un outil
Non, forcément, c'est quelque chose d'artificiel, mais c'est.
Vous n'avez pas peur que ça comme un outil. Des personnes aient l'impression qu'ils fassent partie de leur corps et qu'ils fassent partie de leur identité?
Ouais, ça pourrait arriver, mais. Après,
avant d'avoir un membre bionique, enfin, cela nécessite une amputation. Et encore, la chirurgie esthétique, c'est pour rendre plus joli, c'est une apparence.
Mais pour
les membres
de bionique,
il faut avoir l'envie de se faire amputer un de ses membres.
C'est des opérations qui peuvent se faire très aisément avec de simples anesthésies.
Mais les membres bioniques ont surtout été utilisés, enfin, ont été inventés surtout pour rendre service à l'homme après une amputation et non pas pour rendre joli ou décupler des forces.
Vous créez, par exemple, en robotisant énormément vos chaînes de production, une concurrence entre l'homme et la machine que l'homme ne peut remporter niveau productivité, et du coup, est-ce qu'il ne chercherait pas non plus à lutter contre la machine en s'intégrant des parties de machine, des parties de robotique
Non, parce qu'il y aura toujours une place pour l'homme. Enfin, le développement des robots se fera pas par des robots, il se fera par l'homme. Il y aura toujours besoin d'un entretien sur les machines. Il y aura toujours une place pour l'homme, mais les robots sont là toujours pour l'aide.
Et dans ce cas-là, la compétition se fera entre les humains, et les humains verront bien que les machines sont plus performantes et pourront, augmenter leur productivité, peu importe leur emploi, vouloir utiliser ce genre de système implanté à leur corps pour... améliorer leur performance, quelle qu'elle soit.
Bon, cela dépend des humains, mais se faire amputer un membre qui fonctionne...
Après, là, c'est pareil, de ce côté-là, on peut aussi mettre des législations pour éviter que ça devienne un phénomène de chirurgie esthétique.
Mais vous pensez, quand on pourra soigner des maladies, par exemple l'Alzheimer, en implantant des puces dans le cerveau, est-ce que vous pensez que ce serait encore vous ou...
Bah oui,
ce serait pas forcément bon pour la personne. Parce que peut-être qu'elle retrouverait sa mémoire, mais ce serait pas forcément sa propre mémoire. Peut-être.
Bah, je sais pas.
Peut-être quelque chose de biaisé.
Implanter une mémoire.
Non, mais. Ça serait peut-être biaisé par le système, enfin.
Si c'est juste pour corriger la maladie, c'est comme prendre un médicament. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de.
Après, les évolutions médicales ont déjà été faites, par exemple, les pacemakers. C'est un système électronique qui est intégré dans un corps et personne s'en plaint.
Mais qui ne touche pas à l'intégrité de la personne directement sur sa personnalité, alors qu'un système électronique implanté dans un cerveau peut plus facilement avoir des impacts sur le comportement d'une personne.
Ça dépend, c'est juste pourquoi j'ai la maladie, ça va pas avoir des impacts.
Mais il y aura forcément des impacts, des effets secondaires. Il peut y avoir des dérives qu'on pourrait voir dans certains pays totalitaires notamment.
Après, les parties médicales sont extrêmement contrôlées et on peut pas faire ce qu'on veut surtout des puces électroniques, surtout au niveau du cerveau. C'est une partie du corps extrêmement importante.
Bon, nous avons compris vos points de vue sur le sujet des membres bioniques. Stéphane Fauteuil, vous êtes chercheur en informatique et pourtant vous vous méfiez de l'intelligence artificielle. Pourquoi?
Parce que je suis au premier plan du développement de ce genre de système et je vois très bien à quelle vitesse ça évolue. Et je me rends compte qu'il y a plusieurs dérives de possibles qui sont particulièrement dangereuses des systèmes de reconnaissance faciale qui peuvent paraître anodins et plutôt efficaces quand on les implante dans des téléphones par exemple, mais qui peuvent très facilement être dérivables pour créer des armes automatisées et ainsi pouvoir créer différents dangers dans le monde en lançant des guerres un peu excessives.
Après, ça peut éviter le traumatisme des hommes, ça permet de collaborer avec l'armée par exemple pour mieux défendre le territoire.
Oui, mais du coup, des personnes tueront d'autres personnes par le biais des machines sans s'en rendre compte, comme dans un jeu vidéo.
Bah si, ils s'en rendront compte, mais...
C'est un problème qu'on voit déjà avec les drones,
là,
on déresponsabilise les personnes, puisque elles ne sont pas directement en face de la personne.
Ouais, mais dans ce cas-là,
psychologiquement, ça devient beaucoup plus aisé de tuer quelqu'un.
Dans ce cas-là, les personnes qui contrôlent ces robots, il faut qu'ils soient amenés quand même sur le terrain et qu'ils aient...
ça n'a rien à voir avec les robots.
Et l'intérêt pour l'armée serait trop faible et...
Non, mais enfin, sur le terrain, je veux dire... qu'ils aient le même quotidien que les autres militaires, pas qu'ils aillent travailler en ville dans un bureau.
Mais ils n'auraient pas le visuel sur la personne qu'ils vont tuer ou...
Après, ils voient quand même la scène...
Ça déshumanise un peu la mort.
Déjà, quand on voit, les gens ont beaucoup plus de facilité à tuer à travers un écran que simplement en face d'une personne. Quelque chose qu'on retrouve, comme je l'ai déjà dit, avec les drones. Actuellement, au niveau de l'armée, où les gens hésitent bien moins à tirer à travers un drone que simplement avec une arme en face d'une personne.
Ça évite les troubles mentaux recensés en très fort nombre au sein de l'armée, de toutes les armées du monde.
Et ça permet aussi des massacres et ça cause aussi un énorme problème éthique et philosophique.
Un humain peut pas être hacké alors qu'un robot, lui, oui. Si une armée est composée entièrement de robots et qu'un gouvernement arrive à rentrer dans le système, un gouvernement se retrouve complètement sans armée, en fait.
Après, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des centres de données, il y a des sécurités qui sont extrêmement évoluées. Des ingénieurs en sécurité travaillent dessus tous les jours. Et pour hacker des systèmes tels que l'armée et une flotte de robots, cela nécessite une très très bonne connaissance de l'informatique et n'est pas à la portée de tout le monde.
Donc, et c'est là où on donnerait encore plus de puissance aux nations qui sont déjà les plus puissantes dans le monde.
Mais ceux qui ont les robots, c'est déjà les nations les plus puissantes.
Oui, mais celles qui ont les plus puissants capitaux auraient une capacité de contrôle total sur le monde et une influence bien plus importante qu'ils n'ont déjà. Là où leur influence est principalement économique actuellement et...
Militaire aussi.
Oui, mais leur puissance militaire est bien
après,
plus...
Après, les grandes puissances n'ont pas forcément des mauvaises intentions... sur le reste du monde, donc ça pose pas de problème particulier.
Les grandes puissances peuvent vouloir garder leur grande puissance, justement.
Oui, ils veulent garder leur grande puissance. Oui. Donc ils vont utiliser la robotique pour.
Ils peuvent pour aussi, être, ils à la aussi vouloir utiliser leur grande puissance pour accéder à des ressources qui ne sont pas les leurs. Ce qui est déjà relativement le cas avec les différentes guerres qu'il y a pu avoir pour le pétrole. Et c'est quelque chose qui pourrait prendre une ampleur encore plus importante.
Après, les grandes puissances peuvent se contrôler entre eux, il n'y a pas une seule grande puissance. Donc,
Mais malheureusement, on voit déjà que malgré les différentes puissances qu'il peut y avoir dans le monde, elles ne s'empêchent pas les unes les autres d'agir forcément sur tout.
Après, nous n'avons jamais refusé l'évolution, vous ne repasseriez pas à vivre comme au 19e siècle.
Oui, mais est-ce que c'est une évolution positive? C'est une évolution qui est néfaste pour notre vie. Autant ne pas évoluer.
Nous ne sommes pas là non plus totalement contre le développement de l'IA, nous sommes là
pour la sécuriser,
pour
mettre
faire
en place
la part entre les machines et les hommes.
Et puis pour mettre en garde les gens des différentes dérives qu'il peut y avoir et de tous les dangers que.
Après, par exemple, pour ce qui est de l'armée ou robotiser, tout ça, est-ce qu'on peut aussi penser à des systèmes pour déprogrammer les robots en cas de danger, en cas de problème pour les rendre obsolètes.
Désactivables à partir du moment où...
Un peu comme un téléphone, s'il se fait voler, bon, bah, on peut très bien le désactiver ou le bloquer.
Mais s'il arrive à un stade où son intelligence dépasse celle de l'homme, il pourrait très bien s'activer lui-même, sa conscience, enfin...
Très bien, nous allons arriver à la fin de l'émission. J'aimerais en quelques mots que vous concluiez sur ce que vous pensez être du coup l'intelligence artificielle, mais surtout sur l'avenir. Comment vous envisagez l'avenir de l'intelligence artificielle? José Chakapi.
Il faut faire attention parce que dans l'avenir, on va là vers un monde où l'intelligence artificielle serait globale, où tout serait intelligent. Mais il faut, pour moi, il faut à tout prix empêcher ça parce que ça va dénaturaliser notre monde. Donc il faut contrôler cette intelligence artificielle et la laisser pour des bases de données simples et faire très attention à et légiférer sur ces domaines.
Très bien. Pas l'avis.
Moi je pense qu'il faut surtout pas contraindre la recherche sur l'intelligence artificielle. Enfin, faut laisser. C'est vraiment ce qui nous permet de repousser nos limites et faut laisser le développement se faire. Après, bon bah. Faut aussi mettre en place des législations pour contrôler tout ça. Dans la recherche, il ne faut pas bloquer la recherche, mais pour ce qui est de l'utilisation au quotidien, bah là, il faut la contrôler, la limiter par des lois, par tout un processus.
Stéphane Pétain.
Je ne suis pas forcément contre le développement de l'intelligence artificielle, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui serait inévitable. Mais la ralentir énormément pour le moment, histoire de laisser en place de laisser le gouvernement mettre en place des lois pour encadrer le système et éviter énormément toutes les dérives, et puis mettre en place aussi des systèmes de reconversion à grande échelle pour les employés et pour la société.
Et Jean Baudouin.
Pour l'intelligence artificielle, donc ça va nous permettre donc dans le futur d'aborder des problèmes donc extrêmement complexes du coup à grande échelle et donc développer notre monde sous une autre manière.
Très bien. Merci à tous pour votre participation à l'émission. Tout de suite la météo avec René Bouvier.